This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans sa formule light et savoureuse quand même, avec des vrais morceaux de culture dedans. Ça s'appelle Extra Ball, c'est notre petite excuse pour rattraper des films ou des séries qui nous ont échappé, ou pour prendre le temps de causer de rééditions, comme nous allons le faire tout de suite en évoquant le grand Michael Cimino, dont deux films reparaissent dans de très belles versions restaurées chez Carlotta, Desperate Hours, et surtout le légendaire L'Année du Dragon. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et je précise comme toujours que nous sommes au temps calé. Nos Ciné Extra Ball spécial Cimino. C'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors, on a tout dit ou tout écrit sur Michael Cimino, le grand génie brûlé du nouvel Hollywood, encensé pour son voyage au bout de l'enfer, puis assassiné 2 ans plus tard pour les portes du paradis qui avait coulé United Artists, son western homérique qui avait bien failli lui coûter sa carrière à lui. Heureusement pour nous, il a persévéré en signant notamment en 1985 le monumental L'Année du Dragon avec un Mickey Rourke splendide. Moi, c'est un de mes films préférés, comme ça c'est dit. Si on en parle, on le répète, Stéphane, c'est parce qu'il ressort dans un coffret superbe chez Carlotta dans le cadre de leur série Ultra Collector. Il est la seconde référence après Body Double de De Palma, dont on avait également parlé dans une précédente émission. Alors Stéphane, dis-nous tout sur ce coffret, puis sur le film, tant qu'à faire.
Ouais, voilà, alors ça ressort le 9 mars en fait chez Carlotta. C'est un plus ou moins double programme, même si Desperate Hours sort de façon beaucoup plus...
Version simple, on va dire.
Version simple, voilà, avec juste une préface de Jean-Baptiste Torré,
ouais,
qui est assez intéressant.
Qui avait écrit un bouquin excellent sur Michael Cimino, qu'on recommande chaudement.
Tout à fait, et qui fait aussi une préface sur... celle de L'Année du Dragon. Alors il y a très peu de bonus sur L'Année du Dragon. Il y a cette préface là où en gros t'aurais dit à peu près tout ce qu'il faut dire sur le film, hein, de manière voilà. Et il y a un bonus en fait qui je ne sais pas si c'est, je sais que c'est un montage récent, mais je ne sais pas si les propos en fait de Cimino sont récents. C'est comme un espèce de digeste de commentaire audio sur lequel Cimino revient sur des éléments clés de la confection de L'Année du Dragon.
D'accord.
Alors effectivement, comme tu l'as remis en contexte, ce qui est très intéressant avec Michael Cimino, c'est qu'au moment où il a fait L'Année du Dragon, c'est qu'il était tricard Hollywood.
Fini.
À cause des Portes du Paradis. Comme l'explique Torré dans les bonus, en fait, il a fait un peu de boulot de script doctor parce qu'il était scénariste à la base.
Il est pas crédité sur plein de films sur lesquels il a bossé.
Il est revenu en fait travailler avec Oliver Stone, pour lequel il devait réaliser à la base Midnight Express.
D'accord.
En fait, Oliver Stone voulait absolument que Cimino réalise Midnight Express. Ça s'est pas fait. Mais en fait, Cimino avait tellement aimé le scénario de Midnight Express qu'il s'est dit je vais reprendre ce scénariste là. Alors voilà, sur L'Année du Dragon, la conjonction entre ces deux personnalités, hein, qui se retrouvent là, parce que Oliver Stone à cette époque-là c'était un très très grand scénariste. Il avait donc écrit Midnight Express, il avait écrit Scarface. Et ce qui est très intéressant avec L'Année du Dragon, quand tu revois le film aujourd'hui, c'est là où le film tient extrêmement bien, au-delà de la mise en scène qui est
remarquable.
Comme toujours chez Cimino, y compris dans Desperate Hours d'ailleurs, même si c'est un film qui est massacré.
C'est un film mineur aussi.
Oui. C'est un film extrêmement bien documenté sur les triades. Alors Cimino insiste là-dessus dans le bonus en fait pour dire qu'à l'époque en fait les triades c'était de l'ordre du mythe presque dans la société américaine. En fait les gens étaient persuadés que ça n'existait pas, que ça n'existait pas à Chinatown. Et que ce que raconte le film, c'est de l'ordre du pur fantasme. Et d'ailleurs, le film se fait traiter, enfin comme à chaque fois chez Cimino, il s'est fait insulter à la sortie du film. Il s'est fait traiter de raciste parce que les gens ont plus ou moins confondu le propos du film avec les propos du personnage qui est interprété par Mickey Rourke, qui est effectivement un flic raciste qui a un gros problème avec les Asiatiques, et notamment parce qu'il c'est un vétéran de la guerre du Vietnam.
Exactement.
Alors ce qui est très intéressant, alors je sais que ça fait un peu formule simple en fait de critique de dire ça, Mais en tout cas, si on prend Voyage au bout de l'enfer, Les portes du paradis et La nuit dragon, on peut quand même dire que Michael Cimino, c'est le cinéaste de l'Amérique, et certainement de l'Amérique de cette époque-là.
Bien sûr. Et de ce traumatisme-là.
Et de ce traumatisme-là, pas uniquement, parce que Les portes du paradis, c'est un plus ou moins un film sur le capitalisme, quand même. Oui. Voilà. Il s'est fait traiter de marxiste en à la sortie du film, juste à cause du sujet même du film, en fait. Mmh. C'est-à-dire un shérif qui prend fait et cause, en fait, pour des fermiers. Contre des grands des industriels qui veulent reprendre leur terre, mais et il s'est fait traiter de réac à l'époque de Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, quand tu regardes le film, c'est le premier grand film post-Vietnam réunificateur. C'est un film sur l'amitié, c'est un film sur l'Amérique du bas, on va dire, pour reprendre une expression bien de chez nous.
L'Amérique populaire.
Voilà, l'Amérique populaire, les prolos. Et donc c'est normal que c'était un succès à la fois au cinéma, en fait, en termes de box-office. Et
en termes critiques, voilà, puisqu'il a eu en termes l'Oscar notamment.
Voilà. Le voir manifier ça d'une certaine manière, et le voir critiquer après ce que représente l'Amérique avec Les portes du paradis, c'est ça qui n'est pas passé. Et donc, en fait, le truc avec La nuit du dragon, c'est qu'il persiste et signe. Et c'est un film sur la réunification absolue, même si ce n'est pas aussi évident que Voyage au bout de l'enfer. Pourquoi ? Il y a une anecdote, en fait, que raconte Cimino, qui est très intéressante dans le bonus. C'est qu'il a eu le final cut sur La nuit du dragon. Donc on va rappeler vite fait ce que c'est La nuit du dragon. La nuit du dragon, c'est un flic qui arrive à Chinatown, qui a un trauma post-Vietnam, post-guerre. Et en fait qui décide de nettoyer le quartier, en fait, des gangs. Voilà. Et il va perdre à peu près tout son identité, sa femme, etc. Donc je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu, je suis désolé. Mais il va s'unir avec une journaliste qui est une métisse.
Sino-américaine.
Exactement, voilà. Et donc tout cet aspect symbolique, en fait, qui est dans le film, Cimino insiste dessus parce qu'il dit, voilà, j'ai eu le final cut sur ce film, j'ai pu faire ce que je voulais. La seule chose que le studio m'a imposé de changer, c'est la dernière phrase de dialogue. Et dans le film, il prétend qu'elle n'a aucun sens, en fait, ouais, ce qui est plutôt plus ou moins vrai. Hein, en fait, c'est juste une punchline de fin de film. Mais sa phrase, à la base, c'était une phrase qui était une phrase d'Oliver Stone aussi, dont il rappelle, en fait, qu'Oliver Stone a depuis été marié avec une Vietnamienne. Il faut rappeler qu'Oliver Stone a fait aussi la guerre du Vietnam, hein, à l'époque. Mm-hmm. Donc il avait aussi un compte à régler, on va dire. Et la dernière phrase, le personnage de Stanley White, Mickey Rourke, qui rappelons-le, est un immigré polonais, en fait, qui est devenu américain, quoi, naturalisé américain, qui dit à force de faire la guerre avec l'ennemi, on finit par l'épouser. C'était la phrase de fin, en fait. Ouais. Et il partait dans les bras de la journaliste métisse. Et c'était le message, on va dire, de réunification de la fin de l'année dragon. Pour une raison complètement inexplicable. Les studios ont demandé de le couper. Ils l'ont changé. Donc voilà. Et Cimino, aujourd'hui même, ne sait toujours pas pourquoi, en fait, on lui a demandé de changer ça. Donc voilà, c'est un film incompris à sa sortie.
Qui a quand même depuis obtenu un statut culte
assez rapidement, même plus que culte. Hein.
C'est
un très grand polar. On peut dire que c'est peut-être mineur vis-à-vis des grands aspects grandiloquents, épiques de La porte du paradis et
Voyage au bout de l'enfer,
mais bon, ce serait malmener le film, c'est pas vrai, en fait. Oui, c'est quand même un très grand polar.
Ouais,
c'est quand même un très grand polar. C'est un polar qui a mis en lumière une facette de New York. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est pareil, c'est une autre anecdote qui est assez intéressante dans les bonus du DVD, enfin du Blu-ray, pardon, c'est que le film n'a pas été tourné à New York, quasiment pas, en fait. Là, il y a quelques scènes ici et là pour avoir des vues spécifiques, mais notamment la scène à Chinatown n'a pas été tournée à New York. Et quand Cimino raconte que quand il a montré le film à Kubrick, Kubrick lui a dit, c'est incroyable ce que tu as réussi à obtenir avec Chinatown, etc. etc. Et Cimino lui dit, mais non, Stanley, ça n'a pas été tourné.
Ça n'a pas été tourné là-bas.
Ça n'a pas été tourné à Chinatown, ça a été tourné sur un décor. Et en fait, Kubrick, qui est quand même né dans le Bronx à la base, en fait, était stupéfait par la qualité du film. Et ça en dit long. Hein. Enfin, cette anecdote, elle est intéressante parce que ça fait un peu name dropping de la part de Cimino de balancer ça, mais en même temps,
quand Kubrick te dit ça, tu
le répètes. Quoi. Mais le truc, c'est que c'est une manière de dire que le film tient très très bien la route encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments. En fait, c'est un vrai rêve pour moi de polar vénère qui ne s'excuse absolument pas de son propos. qui prend tous les voilà, enfin Mickey Rourke au top quoi, donc
parfait.
Et surtout moi je sais que c'est un des trucs qui m'avait marqué étant gosse, c'est la façon dont la caméra en fait est utilisée. Et c'est précisé dans le générique, c'est Alex Thompson, le chef-op, en fait, c'est chef-op de légende, chef-op de beaucoup de films de Ridley Scott, qui en fait a non seulement fait la lumière du film, mais a aussi opéré la caméra, ouais. En fait, a manipulé la caméra sur le plateau. Donc c'est, voilà, ça sort donc le 9 mars.
Et en même temps, Desperate Hours, voilà, la maison des otages.
La maison des otages, parce que c'est un remake du film de William Wyler des années 50, et toujours avec Mickey Rourke, mais là, bon, c'est plus du tout la même configuration.
Ni la même ampleur, on va dire.
Ni la même ampleur, mais c'est un thriller. Aujourd'hui, quand tu revois le film aujourd'hui, tu te rends compte à quel point Cimino a essayé de faire un thriller à la Hitchcock, en fait, avec ce film-là, ce qui le sort déjà de la logique du film de William Wyler. Mais. Même si le film est bourré de trous, même si le film pose problème, même si c'est beaucoup moins intéressant que La Nuit du Dragon, Voyage au bout de l'enfer ou La Porte du Paradis, voire même Le Canard d'Or évidemment, c'est quand même un film qui est admirablement bien filmé, comme toujours chez Cimino, y compris Sean Chaser par exemple, son dernier film qui date maintenant d'il y a une vingtaine d'années. C'était pas un très bon film, mais c'est un film très bien filmé, et ça c'est toujours agréable, c'est toujours très cinématographique. Il y a beaucoup de plans qui font vraiment penser à Hitchcock, et il y a même cette manière, en fait, c'est quand même le cinéaste des grands espaces, comme le rappelle Toré dans la préface, mais c'est intéressant de prendre un mec comme ça et de le voir filmer principalement à huis clos, en fait, ouais, voilà. Et c'est toujours assez ingénieux et assez fort visuellement, ça fonctionne très très bien. Après, on commence à voir que Mickey Rourke commençait à s'en foutre un peu. Voilà, donc c'est pas un achat majeur, contrairement à La Nuit du Dragon, qui d'ailleurs, je rappelle, en fait, les deux copies en fait sont assez propres. Hein. C'est assez agréable. Ouais. Voilà, il y a quelques problèmes, notamment sur les dragons, il y a quelques petits problèmes d'artefacts, ça, mais bon, ça reste quand même très propre ça vaut le coup de passer du DVD au
Blu-ray, voilà. Sur le coup. Et ben merci beaucoup Stéphane, notre temps est écoulé. Merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Nos Ciné version normale, c'est tous les lundis. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net, quelle que soit la plateforme. On s'appelle Nos Ciné. Le plus simple, c'est d'aller directement sur nosciné.com. Comme ça, vous êtes certain de ne pas vous paumer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. Et en attendant, on vous dit à bientôt.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine !